France Inter, le 7-9.
Il est 7h49, Karine Bécard. Vos invités ce matin sont deux journalistes du quotidien Le Monde. Ils ont publié de très nombreux livres, dont le célèbre « Un président ne devrait pas dire ça ».
Bonjour Gérard Davet.
Bonjour.
Bonjour Fabrice Lhomme, merci d'être ce matin sur France Inter. La haine, les années Sarko, c'est le titre du thriller politique que vous sortez ce jeudi aux éditions Fayard. Alors ce n'est pas à proprement parler cette fois un livre de révélation à quelques détails près, c'est plus un livre d'histoire. Vous racontez par le menu toute l'histoire de la droite entre 2007 et 2014. Gérard Davet, pourquoi en plein quinquennat macroniste avoir eu envie de revenir sur ces années sarkozystes ?
Parce que en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des fumées peu ragoûtantes qui émanaient des arrière-cuisines de la droite française en particulier. Et on s'est dit avec Fabrice Lhomme, on va défoncer la porte à double bâton, on va rentrer dans la cuisine et on va raconter exactement ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a voulu faire en fait. Hein. C'est un western politique, un thriller politique dans lequel on raconte exactement comment se sont passées les choses entre Sarkozy et Fillon durant ces dernières années.
Alors vous racontez voilà cette droite qui est en train de s'écrouler, qui est en train de s'effondrer, que vous décrivez, que vous racontez, vous expliquez que c'est parce que les politiques à l'intérieur s'y haïssent. Et pour vous, c'est la nomination de François Fillon à Matignon qui, je vous cite, marque le point de départ de cette séquence mortifère. Pourquoi le début du déclin de la droite viendrait forcément de la nomination de François Fillon à Matignon, Fabrice Lhomme ?
Paradoxalement, le début de la fin, c'est la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007. Et c'est dès le départ une cohabitation qui s'instaure entre un président de la République, on va dire, expansif, extraverti, et un homme caché, secret et introverti, François Fillon. Il va y avoir dès le départ une opposition terrible entre eux, une opposition pas seulement politique, mais de caractère, de tempérament, qui va dégénérer en haine. Et à partir de là, ça ne s'arrêtera plus jamais. Et on ne parlera plus jamais, j'allais dire jusqu'à aujourd'hui, de ligne politique ou de penchant idéologique, mais uniquement de combat à mort entre personnes qui se disputent le pouvoir.
François Fillon prend tout mal. Il supporte pas qu'on le traite de collaborateur.
Tout à fait. Il est plus que susceptible.
Tout est dramatique.
Et je pense qu'on a, vous parliez tout à l'heure de révélations, mais sur cet aspect-là, comme dans d'autres aspects du livre, il y a beaucoup de révélations et notamment des déclarations qui sont, à mon avis, assez stupéfiantes de responsables politiques qui sont toujours en place. On n'est pas dans le passé lorsqu'on parle de Laurent Wauquiez, de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et d'autres qui nous ont parlé de manière extrêmement cash, ce qui nous a même surpris et qui nous révèle un petit peu les dessous de ce quinquennat. On a appris, par exemple, que François Fillon était réputé pour ne rien faire, pour ne pas travailler. Et ça, on ne l'invente pas. Ça nous est dit par des personnalités importantes comme Brice Hortefeux, Claude Guéant, qui était quand même bien placé pour le savoir. Il nous dit non, Sarkozy se plaignait de Fillon parce qu'en gros, il fait rien.
C'est un peu toujours ce que dit un président de son premier ministre, non ?
À ce point-là, en tout cas, c'est rarement dit de cette manière, je crois.
En tout cas, voilà, on suit sur cette année Jean-François Copé qui déteste François Fillon et qui lui pique l'UMP. François Fillon qui est effectivement Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, lui, il est rattrapé par différentes affaires, dont l'affaire Big Malion. Et au milieu de tout cela, on a un homme qui s'appelle Jérôme Lavrieux. Qui est ce Jérôme Lavrieux, Fabrice Lhomme ?
Alors Jérôme Lavrieux, c'est l'homme de l'ombre de Jean-François Copé. Mmh. Il l'a suivi pendant une grande partie de sa carrière. Donc on retrace un petit peu ses aventures et mésaventures. Et c'est surtout l'homme qui va être au cœur de ce qu'on a appelé l'affaire Big Malion, qui est en fait une affaire de financement occulte de campagne électorale, celle de Nicolas Sarkozy en 2012. Et Jérôme Lavrieux, qui est un petit peu notre fil rouge dans cette fresque.
C'est le professeur, hein. Voilà, il explique comment on fabrique des coups tordus et il
Exactement.
Est spécialiste en la matière.
Il est d'autant plus crédible qu'il avoue lui-même avoir commis des faits, si ce n'est répréhensibles par la loi, au moins par la morale. Avoir truqué des choses, avoir monté des coups. Alors, je vais pas tout révéler parce qu'il faut lire le livre. Et puis, il y en a tellement. Honnêtement, il nous en a dit plus qu'on en attendait. Et donc, cet homme de l'ombre est passé à la lumière lorsqu'il a avoué en 2014 que oui, la campagne de Nicolas Sarkozy avait été truquée et que oui, elle avait été financée de manière illicite.
Gérard Davet, pourquoi est-ce qu'il a joué le jeu, ce Jérôme Lavrieux? Parce que c'est, vous le dites d'ailleurs à un moment donné dans le livre, c'est un grand brûlé de la vie politique. Mais là, il a décidé de ne plus se cacher et de tout raconter.
C'est un affranchi devenu une sorte de repenti en fait. C'est-à-dire qu'il est à la fin de sa carrière politique, il était député européen, il ne le sera plus d'ici deux mois a priori, et même certainement d'ailleurs, il va ouvrir un gîte dans le Lot, dans le Périgord plus précisément, parce que justement il n'a plus aucun espoir en politique, parce qu'il en a trop dit. Il en a trop dit à la télévision, mais surtout il en dit trop dans ce livre. Il raconte vraiment par le menu les mille et un coups tordus qu'il a pu monter durant ces 10 dernières années, y compris
devant la
campagne.
C'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il peut plus faire de politique, non ?
Ça va être compliqué après, de toute façon, après ce livre. Mais il n'est pas le seul, parce que justement, ce qui nous a stupéfait dans ce livre, c'est qu'on a rencontré longuement, évidemment, Jérôme Lavrieux, mais plein d'autres. Ça va de Rachida Dati à Brice Hortefeux, en passant par Claude Guéant. Et ils nous ont tous ils ont tous accepté de jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont, parlé cash, ils n'ont évidemment jamais relu leurs propos, on a tout enregistré, et ils se balancent les uns les autres des horreurs sur les uns sur les autres. Et nous, on partait d'un postulat qui était la haine. Bien sûr, il y a la haine en politique, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, c'est eux qui nous ont dit à chaque fois, ils ont prononcé ce terme, bien sûr, c'est la haine, tout le temps. C'est revenu comme un mantra.
Alors, je reviens quand même sur ce Jérôme Lavrieux. Vous en faites un personnage quasiment sympathique, alors que quand on le fréquente un peu, il est absolument cynique. C'est volontaire ? Vous avez eu vraiment envie, Fabrice, oui, d'en refaire un personnage sympathique ? Vous êtes tombé en amour avec lui ?
Non, je n'irai pas jusque-là. C'est un personnage intéressant, d'abord, surtout.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, qui a vécu beaucoup de choses, et surtout, qui raconte tout. Moi, c'est ça, mon critère numéro un. C'est qu'il raconte tout, et il fait preuve, aujourd'hui, de sincérité. Et lorsque vous parlez de cynisme, effectivement, mais il explique justement en quoi il a été cynique, et pourquoi la politique, c'est du cynisme. Et donc, moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est cette lucidité, ce courage, j'allais dire, de dire, ben oui, moi, j'ai construit une carrière basée notamment sur le cynisme. C'est assez rare de s'auto-incriminer de cette manière. Donc c'est ce qui nous le rend intéressant, sympathique éventuellement, parce que...
Mais vous le réhabilitez quand même.
J'allais dire oui, mais la justice s'en est déjà chargée. Parce que effectivement, il sera renvoyé devant le tribunal pour les fautes qu'il a reconnu avoir commises, mais on a prêté beaucoup de choses à Jérôme Lavrieux à un moment, notamment le fait d'avoir, pour résumer, financé de manière occulte une future campagne présidentielle de Jean-François Copé. De tout ça, la justice a fait litière, et c'est vrai que le livre, de ce point de vue-là, rend justice à certaines personnes qui ont été parfois mises en cause à tort. Et pourquoi ? Parce que l'un des sports préférés de la droite, c'est de se balancer devant les juges ou devant des procureurs et de se mettre des bâtons dans les roues en permanence.
Alors, est-ce qu'il n'est pas tout de même un peu anachronique, ce livre ? Je vous pose vraiment la question à tous les deux, et très honnêtement, est-ce qu'il correspond à l'ère du temps, à l'époque dans laquelle on vit, Gérard Davet ?
Moi, ça, oui, je pense que oui, parce que on est dans une époque, justement, macronienne, dans laquelle on se plaît à dire que la politique, il y a eu la vieille politique, puis la nouvelle politique, etc. Moi, je considère qu'il y a la politique.
Et qu'elle se fait toujours comme ça ?
Mais non, pas tout le temps. C'est-à-dire que la politique, en fait, c'est un sport de combat, mais c'est aussi un sport qui est pratiqué par des êtres humains. Les êtres humains avec leurs faiblesses. Et justement, dans ce livre, et dans ces deux livres d'ailleurs, parce qu'il y a un tome 2 qui va sortir à l'automne, nous racontons les faiblesses des uns et des autres. Et je pense que ça, c'est tout sauf anachronique, c'est la réalité du jour.
Alors en fait, ma question, c'est est-ce que les Français, qui se disent de plus en plus souvent écœurés par la politique, est-ce qu'ils ont encore envie, sincèrement, à votre avis, de lire ce genre de coulisses ?
Alors moi je suis persuadé que c'est le cas, et je ne parle pas seulement de ce livre. Je pense qu'il s'est passé en 2017 quelque chose qui a stupéfait tous les observateurs, avec cet écroulement de la gauche et de la droite, ce qui est quand même pas neutre, en même temps quasiment, et on a l'impression qu'on n'a rien compris. On n'a toujours pas compris ce qui s'était passé exactement, avec l'irruption d'un inconnu total qui rafle la présidence de la République. Or je pense que c'est notre travail, à nous journalistes, d'expliquer, de décrypter. Et je crois que à travers...
Vous ne contribuez pas aux tous pourris, quoi. C'est ça ma question finalement.
J'espère que ce n'est pas le cas. C'est sûr qu'on renvoie pour partie une image parfois détestable de la politique, mais parce qu'elle se pratique comme ça. Mais est-ce qu'il faut mettre la poussière sous le tapis, ou est-ce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont ? Donc je pense qu'on devait effectivement éclairer l'opinion publique sur un pan de notre histoire, mais qui est encore contemporaine, c'est-à-dire la destruction ou l'autodestruction de la droite, et ça continue, puisque on voit dans le livre, je vous donne un exemple parmi d'autres, Laurent Wauquiez, donc patron aujourd'hui de la droite, donc c'est pas de l'histoire, c'est aujourd'hui, qui nous dit, mais moi je dois encore gérer, encore aujourd'hui, les stigmates et les conséquences de la haine entre François Fillon et Jean-François Copé, qui a séparer les militants ex-UMP aujourd'hui LR, et qui sont toujours à couteau tiré les uns contre les autres. On est dans l'actualité.
Finalement, on réconciliera jamais les Français avec la politique.
Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de les réconcilier, parce que les Français adorent la politique. Ils en sont dingues de la politique. C'est pour ça que je pense que nos livres ont parfois du succès, et nos articles, et vos éditos et vos chroniques. C'est que les Français adorent la politique, mais ils adorent aussi qu'on leur raconte la politique. Et il y a certes les grandes idées, il y a certes les grands débats, les grandes explications idéologiques, mais il y a aussi le reste, les êtres humains. Et nous, on aime bien raconter aussi les êtres humains.
Merci Gérard Davet, merci Fabrice Lhomme d'être venu. La haine, les années Sarko avant un tome 2, vous l'avez dit, sur les années Fillon. Le livre sort après-demain aux éditions Fayard. Belle journée messieurs.
Une série télé peut-être. Merci messieurs et merci Karine, à tout à l'heure.